Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin l'avocat lyonnais David Metaxas. Bonjour maître.
Bonjour.
Cet après-midi, le procès de l'année, celui de l'affaire Nérès, s'ouvre au tribunal correctionnel de Paris. Vous serez présent, non pas en tenue d'avocat, mais à la place du prévenu, puisque vous êtes poursuivi pour recel de violation du secret professionnel. Concrètement, Michel Néret, vous avez envoyé un rapport d'enquête, hein, c'est ça? Et c'est interdit.
Alors, il y a trois choses qu'on me reproche au titre du recel de violation du secret professionnel. Il y a effectivement un rapport interne à la police judiciaire, il me l'a envoyé par mail.
Oui.
J'en ai accusé réception et j'ai gardé ce rapport d'ailleurs au dossier concerné. Je rappelle quand même que pour ce rapport-là, il s'agissait d'une affaire de double homicide à Marseille, où j'étais constitué au dossier d'instruction pour la famille d'une des victimes. Et donc... astreint moi-même quand même au secret professionnel, au secret de l'enquête et de l'instruction. Et à la suite de ce double homicide, je suis rentré en contact avec Michel Néret. C'est plutôt lui qui est rentré en contact avec moi d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'a appris le décès à la suite de la fusillade à la Kalachnikov d'un de mes clients.
Mmh.
À ce moment-là, moi, je me constitue partie civile pour la famille et on a collaboré sur cette affaire ensemble.
D'accord.
Et il m'a envoyé un rapport dans le cadre de l'échange d'informations entre un policier chargé de l'enquête et un avocat constitué au dossier d'instruction. Et on est venu me dire, Michel Néret à violer son secret professionnel, et ça je dis non parce qu'il ne parlait pas à un quidam, il parlait à une partie constituée au dossier.
Mmh.
Et en plus on me dit, vous maître Metaxas, vous avez recelé cette violation du secret professionnel, c'est encore plus n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il m'envoie un rapport que j'ai même pas demandé moi d'ailleurs, je l'ai pas demandé, et il me l'envoie dans le cadre d'un échange d'informations entre guillemets, selon lui, pour me rendre service, au cas où moi, en plus, j'aurais des informations en dehors du dossier pour les lui donner, ça n'engage que lui, ça.
Mais quelles sont les relations que vous entretenez alors? Parce que Michel Néret, il fait ça soit parce que vous êtes son ami, soit pour vous mettre dans la panade, parce qu'il vous considère comme un ennemi, un adversaire.
Je crois pas qu'il soit mal intentionné. C'est pas non plus parce que je suis son ami. Ami, le terme est fort. On se connaît.
Oui.
On s'est croisés. Lyon est un village, hein. Et... il est le directeur adjoint de la police judiciaire et moi, à l'époque, je suis le jeune loup du barreau. Donc, on est forcément amené à se croiser sur les différents dossiers, notamment du grand banditisme ou du banditisme, parce que lui est enquêteur et que moi, je suis défenseur. Notre rencontre, elle était naturelle. Et c'est vrai qu'on a eu des atomes crochus parce que c'est un personnage séduisant, qu'il a une grande culture judiciaire et donc, du coup, on a échangé sur un plan personnel. Mais sur un plan professionnel, on était adversaires. Et quand il m'envoie, par exemple, ce rapport-là, il y a encore des choses... où on a échangé et qui me sont d'ailleurs reprochés. Et quand il m'envoie ce rapport-là, manifestement, le but, parce que Néret est tout sauf un imbécile, Néret se dit peut-être que Metaxas va avoir des informations par ses clients sur qui a fait ça et pourquoi. Parce que moi, c'est vrai qu'à l'époque, je veux savoir qui a fait ça. Moi, je veux un procès. Moi, quand je reçois le mail, c'est simple, je retourne un mail en lui disant merci et je passe à autre chose. Pardonnez-moi de le dire ainsi, mais étant constitué au dossier, les informations que Michel Néret a, je les ai déjà.
Mmh.
Donc ça ne m'intéresse pas spécialement. Et je suis passé complètement à autre chose. Quand Néret a plongé en 2011, puis qu'on est venu me chercher en 2012, qu'on me dit vous n'aviez pas le droit d'avoir ce rapport-là. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit au juge, j'en ai rien à foutre du rapport. Il me l'a envoyé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Une fois qu'il me l'a envoyé, que je l'ai reçu, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas bloquer l'envoi.
Mmh.
Donc j'ai ce rapport là, il me brûle peut-être les mains. Je crois pas qu'on puisse me reprocher que Néret me l'ait envoyé. Je veux dire, on en est là quoi.
Mais après 2011 et donc après 2012 et votre placement en garde à vue, il y a des langues qui se sont déliées, hein, des confrères peut-être un peu jaloux qui ont pu évoquer la possibilité d'un deal entre vous et Michel Néret, c'est-à-dire qu'il pouvait vous donner des infos et puis en contrepartie, il conseillait des personnes qui venaient d'interpeller de vous prendre comme avocat.
Ça me fait plaisir que vous l'évoquiez ça, parce que le procès et la tenue de ce procès est l'occasion pour moi de tordre le cou à certaines choses qui ont été dites, et comme vous le rappelez, notamment par des confrères.
Oui.
Après, on parle de confraternité. Je dis que c'est une haine vigilante, la confraternité. Lorsque des confrères s'autorisent à dire ce genre de choses, c'est d'abord méconnaître profondément la personnalité de Michel Néret, la mienne. J'ai trop de fierté pour accepter que des clients viennent me voir pour un deal. Moi, je veux que les clients me choisissent parce que je suis le meilleur. On me l'a reproché d'ailleurs, ce manque d'humilité-là. Donc, je ne vais pas m'abaisser à faire des deals pour avoir des clients. J'ai 2000 dossiers, 200 détenus, ce qui fait de mon cabinet, je pense au plan national, l'un des premiers cabinets. Et ce n'est pas parce que je fais des deals avec des policiers que les clients me choisissent, et ceux qui sont détenus notamment le savent bien. Et puis l'autre chose, ceux qui ont dit ça méconnaissent profondément le fonctionnement du grand banditisme et méconnaissent la personnalité de Néret. Néret, il est haï par le grand banditisme pour différentes raisons. D'abord parce que c'est un policier. Ensuite parce que c'est le policier qui, au plan national et dans toute l'histoire, je l'ai vérifié, de la police nationale, est le policier qui a arrêté le plus grand nombre de braqueurs et qui a cumulé le plus grand total de marchandises stupéfiantes saisies. Jamais un policier ne battra le record de Michel Néret. Autrement dit, mes clients le détestent. Et en plus, c'est un policier, et on le sait parce que ça apparaît dans le dossier, qui utilise des indicateurs avec un fonctionnement parfaitement illégal que j'ai toujours dénoncé moi. Mmh. Je savais que les services de police utilisaient les produits stupéfiants saisis pour rémunérer leurs indics. Je l'avais dénoncé aux audiences. J'avais dit que c'était pas normal, qu'ils utilisaient des indicateurs et qu'ils étaient eux-mêmes instrumentalisés par les indicateurs pour balayer la concurrence. Et du coup, Michel Néré, fort de ce réseau d'indicateurs, était vraiment détesté par mes clients. Dans ce contexte-là, avec toutes les raisons que je viens d'énumérer, comment imaginer que Michel Néré puisse dire à la moindre personne placée en garde à vue « Bah tiens, prends mes taxas ». Mais s'il avait fait ça, ne serait-ce qu'une seule fois, Michel Néré m'aurait mis lui-même une cible sur la tête. Parce que automatiquement, en me conseillant comme avocat, il m'aurait carbonisé.
5 ans après l'arrestation de Michel Néré et son procès, et forcément, il y a l'emballement médiatique qui revient. Les médias locaux, les médias nationaux se concentrent surtout sur Michel Néré, sur sa personnalité, sur son parcours. Est-ce que vous pensez que pour les autres prévenus, c'est une situation plutôt favorable ou vous avez peur que votre cas soit pris à la légère par la justice qui sera plus concentrée sur Michel Néré?
Là, c'est l'avocat qui parle, c'est pas le prévenu. Stratégiquement, il vaut toujours mieux ne pas trop apparaître. Donc stratégiquement, je suis tenté de dire, mais c'est pas ce que je pense vraiment. Je suis tenté de dire que bah, tant mieux si Michel Néré prend toute la lumière. Au moins, moi, je suis à l'ombre et je suis tranquille. Mais c'est pas ce que je pense. Non pas que je veuille apparaître en première ligne, quoique. Moi, je veux quand même dénoncer un dysfonctionnement judiciaire, mais à la différence de Guillotin, par exemple, qui s'est exprimé dans les médias locaux, c'est des fadaises, ce qu'il vous raconte. C'est pas un règlement de compte entre directeur de la police judiciaire, c'est tout sauf vrai, ça. Ça, c'est allumer un contre-feu. Quand on lit le dossier, Michel Néré a des choses à se reprocher, il le sait d'ailleurs. Je peux d'autant plus le dire qu'il en convient. Et c'est tout à fait normal qu'il ait été pris dans une enquête, puis dans une instruction. C'est pas non plus anormal que moi on soit venu me chercher. On avait des questions à me poser. Je dis simplement qu'on aurait pu s'y prendre autrement que de me menotter. Pour un avocat, c'est quand même très fort, symboliquement parlant, que de perquisitionner mon cabinet, que de me, pardonnez-moi l'expression, foutre en garde à vue, c'est ce qu'on a fait. M'y faire dormir sur un banc en bois, je vois pas l'utilité. Et pire encore, la deuxième nuit, me faire dormir en prison pour un avocat présumé innocent. Je dis qu'on aurait pu faire autre chose et me convoquer, me poser des questions auxquelles j'aurais répondu exactement de la même manière. Quoi qu'il en soit, il y a effectivement une affaire Néré. Donc c'est normal, c'est le directeur adjoint de la police judiciaire, c'est normal qu'il focalise l'attention. Mais je trouve que moi, j'ai un traitement, et d'ailleurs, votre invitation m'en convainc, qui me convient parce qu'on me donne la parole, parce que je peux m'exprimer, parce que j'aime les médias et j'assume le rôle médiatique, mais je veux aussi que les médias soient présents à l'ouverture, c'est bien, mais pendant le procès. Je crois qu'il faut absolument que les médias couvrent le procès parce que, au-delà de Néré, c'est tout un fonctionnement, en fait. Et c'est aussi le fonctionnement, quelque part, de la justice lyonnaise qui est en cause. Avec ce système d'indicateurs, de rémunération des indicateurs, le fonctionnement de la police. Et à travers l'histoire lyonnaise, bah, c'est le fonctionnement de la police en France. Et ça, je trouve que peut-être que c'est des boucs émissaires, ces fonctionnaires-là. Peut-être que Michel Néré aussi est un bouc émissaire. Mais je trouve que ça soit bien, c'est bien que ce système-là soit jugé. Et il faut que les policiers en tirent toutes les conséquences. C'est pas admissible. C'est pas admissible qu'on donne des produits stupéfiants à des indicateurs. C'est pas admissible même, je vais vous dire le fond de ma pensée, qu'on travaille avec des indicateurs. Parce que ce sont des gens qui sont dans le milieu, qui donnent des informations pour éradiquer la concurrence. Et quelque part, ce sont des gens qui instrumentalisent la justice. Donc je dis qu'il faut arrêter ce système-là.
Vous avez évoqué Gilles Guillotin, qui est l'ex numéro 2 de la PJ de Grenoble et qui est aussi un prévenu dans ce procès. Il s'est exprimé dans les médias, vous l'avez dit. Il s'estime déjà puni puisqu'il a été suspendu de la police. Et il rajoute, contrairement à David Metaxas, qui peut encore porter la robe d'avocat. Est-ce que vous comprenez sa position?
Je vois qu'on a les mêmes lectures. J'avoue que quand j'ai lu ce qu'il a osé déclarer, en faisant un parallèle entre lui et moi, je suis tombé de ma chaise, quoi. Non mais attendez, il faut appeler un chat. Et si Guillotin veut entendre des vérités, avant même que le procès commence, il va les entendre. Mais il va aussi les entendre à l'audience. Je me réserve là-dessus ma réponse. Je vous la donne. C'est symptomatique de l'inconscience de ces gens-là. Comment ce fonctionnaire de police peut-il oser comparer sa situation à la mienne alors que dans le dossier, il lui est reproché, écoutez bien, d'avoir détourné des produits stupéfiants pour rémunérer des indics. Non mais c'est sérieux. Moi, est-ce que j'ai mis à un seul moment, ne serait-ce qu'un doigt, sur un produit stupéfiant quelconque? Jamais. On reproche à ce fonctionnaire de police qui a prêté serment d'avoir détourné des produits stupéfiants. Moi, on ne me reproche pas ça, là. C'est peut-être pour ça qu'on ne m'a pas suspendu. Guillotin dit et sous-entend que j'aurais eu un traitement de faveur. Pardon ? On a demandé ma suspension à titre provisoire. On l'a demandé. Mais le Conseil de l'Ordre a jugé la chose comme irrecevable en disant « il n'y a pas matière à suspendre David Metaxas ». Et à la suite de ça, on m'a fait des poursuites disciplinaires. En plus, j'ai été poursuivi devant la commission de discipline du barreau de Lyon, laquelle m'a relaxé. Donc Guillotin serait inspiré de se dire que si Metaxas n'a pas été suspendu, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher à Metaxas. Et je ne suis pas sûr que ce soit son cas. Moi, je ne veux pas être son procureur à Guillotin, mais qu'il ne soit pas le mien.
Contrairement à Michel Néret, vous et Gilles Guillotin prenez la parole. Vous, c'est dans les médias, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une stratégie qui est validée par votre défense ?
Je n'ai pas interrogé, sincèrement, mon défenseur là-dessus,
oui,
estimant ne pas avoir à le faire. J'ai le plus grand respect pour mon avocat, qui est maître Alain Jakubowicz, qui est pour moi l'un des meilleurs professionnels en France et le meilleur avocat que je pouvais avoir. Et Dieu sait que j'en ai eu des sollicitations de la part de confrères qui, très gentiment, m'ont proposé leur assistance. Je le dis à titre gratuit, hein, évidemment. J'ai refusé. J'ai refusé parce qu'Alain Jakubowicz est à la fois institutionnel, c'est une référence, c'est l'un des avocats, après moi, lyonnais, les plus connus nationalement parlant. Donc c'était vraiment... Et puis surtout, c'est mon père vis-à-vis de la profession et c'est un père aussi, mais avec une orthographe différente, spirituelle. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier dans la profession d'avocat. Je suis reconnaissant, c'est lui qui m'a formé, donc c'était l'homme de la situation. Mais sur ma stratégie de défense, il ne peut que la valider. Il ne me dira pas ce que je dois faire ou pas. Et j'ai décidé effectivement, notamment sur Facebook, de faire un post en expliquant aux gens que le procès arrivait. Et j'ai eu ce moment de sincérité. J'ai peur, je ne vais pas vous mentir. Être prévenu devant un tribunal, ça ne m'est jamais arrivé. Et pourtant, je suis avocat depuis 15 ans.
Mmh.
Ma place naturelle, c'est avec la robe, c'est à côté d'un prévenu. C'est pas d'être le prévenu. Donc ça, effectivement, j'ai peur.
Oui.
J'ai pas peur de la condamnation, je sais ce que j'ai fait ou pas fait. Mais j'ai peur de comparaître, parce que ça m'angoisse. Et quelque part, je suis reconnaissant aux Lyonnais et à Lyon, et c'est pas de la démagogie. C'est Lyon qui a fait l'avocat que je suis. Si j'ai un succès professionnel, c'est grâce aux Lyonnais qui me font confiance. Et au moment de cette épreuve-là, j'ai voulu d'abord les prévenir, en leur disant, moi je comparais, votre avocat va comparaître en justice à Paris la semaine prochaine. Et je trouvais que c'était une bonne idée de les prévenir moi-même. Et la deuxième chose, c'était de leur dire aussi, soutenez-moi. Ouais, quelque part, ouais, c'est un appel. Et franchement, j'ai là encore une fois ce rendez-vous avec les Lyonnais et mes clients et ceux qui me soutiennent, il n'a pas été loupé. Parce que quand je vois, et les commentaires sont accessibles, il y a 200 commentaires de personnes qui me disent, David, on est avec toi. Il y a 600 likes de personnes qui me disent, tiens le coup, on sera là même si tu es condamné. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et là, je me dis, 15 ans de combat, 15 ans de combat judiciaire, 15 ans de difficultés avec les confrères, 15 ans de rapports parfois difficiles, pour ne pas dire conflictuels, avec les magistrats lyonnais. Même 15 ans parfois de relations tendues avec des clients, il y a quand même une forme de reconnaissance. Et franchement, rien que pour ça, merci.
Aujourd'hui, vous êtes présumé innocent comme les autres prévenus. Vous allez plaider la relaxe. Mais on a toujours eu le sentiment dans cette affaire qu'il fallait faire un exemple de Michel Néret et de son entourage. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une autre sortie que la relaxe ?
Je l'ai envisagé et en même temps, il est clair que la relaxe, pour moi, elle est naturelle. Je vais l'appeler de mes voeux. Si les magistrats sont honnêtes, s'ils sont sincères et s'ils font du droit, alors je serai relaxé. S'il y a une condamnation, et ça arrive, je l'accepterai la condamnation. Mes clients l'acceptent et moi, je ne l'accepterai pas. Si, je vais l'accepter comme mes clients quand il y a une condamnation qui tombe. Mais c'est clair que pour moi, ce sera une déception immense et ce ne sera pas la justice. En même temps, quel est le risque pénal pour un avocat qui passe pour recel de violation du secret professionnel ? J'encours une peine d'emprisonnement. De mémoire, c'est un an. Et j'encours une peine d'amende. La peine d'emprisonnement est inimaginable. Et la peine d'amende, elle sera avec sursis. Si je suis condamné, je le sais déjà. Ça fait 15 ans que je suis avocat. Je sais déjà la peine qu'on pourrait prononcer contre moi.
Oui.
Une peine d'amende avec sursis. Je vais vous dire, même ça, je ne l'accepte pas. Ce serait une peine symbolique, mais je n'accepte pas le principe de ma culpabilité dans cette affaire-là. Encore une fois, il faut bien intégrer que, et c'est ce qu'ont jugé d'ailleurs le Conseil de l'Ordre et le Conseil de Discipline en me relaxant, je n'ai fait que mon métier. Et ça, je vous l'assure, je n'ai fait que porter la robe. L'échange entre un policier et un avocat dans les affaires dont le policier a la charge et l'avocat la défense, cet échange-là est-il couvert par le secret professionnel ? C'est sérieux ? On me dit que le secret professionnel de Michel Néret me serait opposable dans les dossiers où je suis constitué. C'est un non-sens juridique, ça. Et le juge d'instruction n'a pas voulu l'entendre parce que j'ai dénoncé le traitement qu'il m'avait réservé. J'espère que le tribunal l'entendra.
Merci David Metaxas. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.